Ben, merci de m'accueillir ici. Je suis bien contente de vous parler des peintures murales. Je vais vous présenter donc pour l'essentiel des peintures murales qui se trouvent dans notre département. On fera juste une petite incursion dans deux lieux sur un département limitrophe, les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Alpes-Maritimes. Vous n'hésitez pas à participer hein, si vous avez quelque chose de particulier à me demander ou à ajouter à ce que je vais dire. Donc, pour commencer en quelques mots, je vais déjà vous dire que les peintures murales sont un art spécifique de la France du Sud-Est et de l'Italie du Nord. C'est un langage imagé avec un rôle essentiellement didactique. C'est l'œuvre de divers peintres devenus anonymes, mais pour la plupart originaires du Piémont et de la Ligurie. Je vais vous présenter quelques éléments sur le contexte de réalisation de ces œuvres. Ensuite, je vous passerai un certain nombre de diapositives avec des images qui nous permettront de voyager un petit peu dans les Hautes-Alpes. Donc, au niveau du contexte, le XVe siècle, puisque c'est entre le XVe siècle et le début du XVIe siècle que sont réalisées ces peintures murales dans notre département. Le XVe siècle est donc marqué dans les Alpes, et en particulier dans l'archidiocèse d'Embrun et en Piémont, par un fort mouvement de construction d'églises et de chapelles. La première partie du XVe, par exemple, dans le Briançonnais, une quarantaine d'édifices ont été construits. Cette restructuration du réseau paroissial correspond au renouveau pastoral qui a été voulu par les archevêques, et en particulier l'archevêque d'Embrun, Jean Bayle, qui était à Embrun entre 1457 et 1494, et qui se trouvait confronté à une forte déchristianisation après une période troublée, puisqu'au XIVe siècle, des épidémies comme la peste avaient ravagé le pays, les guerres également, et bien entendu, les populations étaient confrontées au progrès des croyances vaudoises. C'est donc dans ce contexte-là que les édifices ont été construits et que la plupart ont été parachevés par la réalisation de très belles peintures murales. Les cycles peints s'inscrivent en effet dans cet effort de recristianisation, marqué par ailleurs par la prédication, celle des prêtres, bien évidemment, celle des franciscains cordeliers, notamment à Embrun et Briançon. Leur présence était d'autant plus importante que leur couvent avait été transféré à l'intérieur des deux villes, et bien entendu marqué également par la présence des prêcheurs itinérants, tels Saint-Vincent Ferrier, qui était actif dans les Hautes-Vallées à l'extrême fin du XIVe siècle. La peinture murale est donc une forme de prédication par l'image. Elle est présente à l'intérieur et l'extérieur des édifices. Son rôle n'est évidemment pas ornemental, même si l'entrain qu'ont mis les auteurs de ces peintures murales à animer ces images et à les rendre artistiques, le but n'était pas de faire de l'art, mais bien d'enseigner les fidèles. Elles étaient aussi le support à la foi et à la piété et à la dévotion. Enfin, et c'est très important, elles sacralisent l'édifice. C'est à partir du Moyen Âge que l'image devient la forme la plus commune de la présence du sacré. Alors, les peintures sont des œuvres anonymes. On a retrouvé seulement trois signatures et encore elles sont incomplètes. Il s'agit de patronymes italiens qui sont tronqués et qui ne permettent pas vraiment de donner un nom au peintre. Néanmoins, ce sont probablement des noms d'origine lombarde. Les peintres qui se déplaçaient donc d'une vallée à l'autre sur les deux versants des Alpes étaient parfaitement identifiés. Leur savoir-faire était connu et les commanditeurs savaient à qui ils avaient affaire et pouvaient s'adresser à eux. Ils possédaient sans doute d'ailleurs des carnets de modèles, comme on le verra, hein, il y a des influences, des portraits, des croquis, et contribuèrent ainsi à la diffusion des formes et des styles. Vous m'entendez bien? Je vous donne quelques éléments sur la technique, puisque on dit bien peinture murale et non pas fresque, puisque quand on parle de fresque, on désigne déjà une technique. En effet, les peintures murales se groupent selon deux techniques, la peinture à fresque, à fresco en italien. La grosse différence, c'est que le peintre agit sur un mortier qui est encore frais. Il est donc obligé d'avancer sur son œuvre dans la journée. Les pigments prennent très rapidement. Donc, cette technique est une technique qui est généralement réservée à des peintres de haut niveau et qui ont une grande habitude. La peinture murale à sec, le mortier, il y a de la même façon un mortier avec une esquisse, enfin le principe est le même, mais le mortier est sec et le peintre fait adhérer ses pigments avec un liant qui peut être de l'œuf ou bien de la colle de poisson. Et la technique est finalement très proche de la peinture à la détrempe qu'on va trouver également au XVIe siècle dans certaines œuvres sur toile de notre département, par exemple. Sur toutes les œuvres que je vais vous montrer, il s'agit, d'après les spécialistes, plutôt de peintures murales, sauf quelques ensembles qui sont d'ailleurs de très grande qualité, comme on le verra par exemple à Briançon ou Saint-Martin-de-Carrière. Alors, on va commencer un petit périple dans notre département. Pour commencer, on va avancer dans le, enfin, comment dire, dans la perception de l'église. On va d'abord commencer par ce qu'il y a à l'extérieur, puis par ce qui se trouve dans la nef, sur les murs de la nef, et ensuite dans le chœur. Donc pour l'instant, on est à l'extérieur, comme vous le voyez ici. Il s'agit peut-être que parmi vous, quelques-uns d'entre vous, vous l'avez reconnu, il s'agit de l'église d'Evigno. On est devant le mur sud du chœur, à droite de l'entrée principale. Et comme vous le voyez, cette peinture murale est à la vue de tous. Les peintures à l'extérieur, le critère essentiel, c'est qu'elles doivent être vues par les fidèles qui vont rentrer dans l'église, mais aussi ceux qui peuvent passer devant l'église en plusieurs moments de la journée. Elles sont donc finalement indépendantes de la fréquentation du culte dans l'église. Comme peut-être vous l'avez reconnu, il s'agit d'une frise qui représente les vices sur le registre supérieur et sur le registre inférieur, les châtiments qui correspondent à chacun de ces vices. Pour la représentation des vices, on est en présence ici d'une sorte d'allégorie, c'est-à-dire que chaque vice est représenté sous forme humaine et chevauchant un animal. Les vices sont attachés les uns aux autres et ils se dirigent tous sous forme d'une sorte de cavalcade. Ils sont donc enchaînés et se dirigent vers l'enfer qui est matérialisé, comme vous pouvez le voir ici, par un monstre avec des dents pointues. Donc les vices s'organisent selon un ordre qui obéit à la classification de Grégoire le Grand. À la racine de tous les péchés, on trouve donc l'orgueil qui est le premier d'entre eux. Ensuite, on a l'avarice, la luxure, l'envie, la colère, la gourmandise et la paresse. L'ordre de ces vices est généralement le même sur les édifices qui ont ces représentations. Parfois, il y a une petite modification au niveau de la gourmandise qui peut passer avant la colère. Voilà. Cette œuvre, enfin cet ensemble date du dernier quart du XVe siècle. Ce thème des vices et des vertus, enfin parfois on a les vices, qui est bien évidemment sur un registre supérieur. Au registre immédiatement inférieur, on a donc les vices, puis les châtiments. Ici, nous n'avons que les vices et les châtiments. C'est un thème, donc, comme je vous le disais, qui connaît un vif succès dans l'ère alpine, au sud-est de la France, pardon, et dans le versant italien. Le centre de diffusion pourrait être le Piémont, où subsistent les exemples les plus anciens. Mais dès la fin du XIVe, des manuscrits montrent les vices personnifiés chevauchant des animaux. On va voir quelques détails. Voici donc l'orgueil, comme vous le voyez richement vêtu sur un lion, se dirigeant vers la gueule de l'enfer. Il est suivi, ici vous le reconnaissez, par la luxure, qui est représentée par une femme très richement habillée, se regardant dans un miroir et soulevant sa jupe pour montrer son genou. Derrière, vous avez l'envie, qui montre des deux côtés et qui montre sa jalousie en regardant de tous les côtés, en n'étant jamais satisfait de ce qu'il a. Et puis ici, la gourmandise, qui est représentée par un homme, comme vous le voyez au nez rouge, buvant du vin et tenant un jambon. Donc cette représentation, qui est finalement une représentation, comme je vous le disais, plus ou moins allégorique, permettait aux peintres, justement, de représenter des figures un peu animées, où par exemple les costumes de l'époque étaient représentés avec une certaine liberté qu'il n'avait évidemment pas dans la représentation du cycle de la vie des saints ou de la passion de Jésus-Christ. Voilà un exemple des châtiments. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui brûle sur un brasier entouré de divers monstres. Ici, nous sommes à Plampinet, pardon. À Névache, à Plampinet et à la chapelle Notre-Dame des Grâces. On a un exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la représentation des vertus qui sont sur le registre, au registre supérieur. Il s'agit d'une suite de femmes agenouillées qui sont peintes sur un fond écran très décoratif dans la partie supérieure. Dans le registre immédiatement en dessous, on a la gueule de l'enfer avec un monstre qui sort de la gueule et qui tire sur la chaîne, entraînant avec lui évidemment les sept péchés. Et puis on retrouve les châtiments dans le registre inférieur. Alors au point de vue des vertus, je vais vous les nommer. Nous avons donc l'humilité, la largesse, la chasteté, l'abstinence, la patience, la charité et la diligence. Voilà un détail sur le monstre. On retrouve l'orgueil, on a l'avarice et ici on a la gourmandise. Voilà pour les représentations donc des vices et des vertus sur l'extérieur des édifices, que ce soit des chapelles ou des églises paroissiales. On a très souvent la représentation des saints qui sont des saints protecteurs et qui tout au long de la journée pouvaient recevoir une pensée, une prière des personnes qui passaient. Vous avez sans doute reconnu ici, bien entendu, Saint Christophe. Les saints qui sont représentés sous forme de personnages isolés, qui ne sont donc pas dans un contexte en relation avec l'histoire de leur vie, sont reconnaissables, bien entendu, à leurs attributs. Et c'est à la fin du XVe siècle, justement, que se développe l'attribut dans l'iconographie. Les saints représentés en façade vont donc être Saint Christophe, comme on le voit ici, Saint Sébastien, Saint Antoine Abbé, chacun ayant un attribut qui permet de le différencier et de se faire reconnaître pour toutes les personnes qui passaient devant l'église ou la chapelle. Puisque bien entendu, on est là au XVe siècle et si maintenant ce sont des choses ce sont des représentations qui ne parlent plus tellement aux gens, à cette époque-là, tout le monde pouvait reconnaître le saint qui était représenté. Saint Christophe que vous voyez ici, protégé, sans doute vous le savez, de la mort subite, qui était un des malheurs les plus redoutés au Moyen-Âge, puisqu'on mourait sans confession. Il suffisait donc d'avoir vu l'image de Saint Christophe et on était à l'abri de ce danger toute la journée. L'image acquiert donc une force apotropaïque, enfin, qui protège vraiment par elle-même. C'est presque une image miraculeuse. Là, on est sur une représentation qui se trouvait à la chapelle Saint-Hippolyte à Névache et qui a été déposée pour des raisons de conservation il y a une cinquantaine d'années presque, et qui se trouve donc, les peintures murales qui étaient déposées étaient ensuite marouflées sur une toile et elles se trouvent donc actuellement exposées à l'intérieur de l'église de Névache. C'est pour ça que vous avez ici un petit cartel qui indique quelle est la représentation. Là, vous reconnaissez sans doute Valouise avec la représentation qu'on devine encore de Saint-Christophe, qui était vraiment une représentation gigantesque et qui a été modifiée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe par une représentation de Saint-Étienne qui est le patron de l'église. Voilà un détail. Vous voyez les grandes, très grandes jambes de Saint-Christophe, qui bien entendu, hein, vous le savez, est représenté en portant le Christ. Et là, c'est malheureusement qu'un vestige. C'est une petite chapelle, c'est la chapelle de Puy-Chalvin, qui se trouve à Puy-Saint-Pierre, qui a une façade très intéressante, mais qui a été très abîmée, avec seulement quelques vestiges. Et vous reconnaissez ici Saint-Christophe, qui est toujours représenté comme un géant portant le Christ, donc de très grandes dimensions. Enfin, on a la représentation dans le même ordre d'idées et de croyances, la représentation de la Sainte Face, qui avait le même rôle et qui protégeait contre la mort subite. On la trouve ici. Je vous montre cette représentation parce que c'est la plus intéressante. Il y en a une autre sur la façade dont je viens de vous parler, mais qui est vraiment un vestige, alors que celle-ci se trouve à Saint-Martin-de-Carrière, dans la chapelle Saint-Jacques à Presles. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Mais c'est une représentation qui est très intéressante, puisque la chapelle était sur le chemin de Saint-Jacques. Il y avait de nombreux pèlerins qui s'y arrêtaient, et qui, plus que toute autre personne, étaient en demande de protection, sur le chemin, avec tous les risques que cela comportait, et était donc en demande de protection contre la mort subite. Cette représentation est assez exceptionnelle dans sa réalisation. Elle est très impressionnante. Vous voyez la toute petite figure de Sainte Véronique qui tient la Sainte Face, avec une représentation qui s'impose. On est ici à la fin du XVe siècle. Enfin, je vais vous dire quelques mots sur justement les rois mages. Luc André a fait allusion à l'exposition qu'on a faite au musée. Donc à cette occasion, on avait présenté quelques œuvres peintes sur les tympans des églises, de plusieurs églises. Ici, il s'agit de celle de Valouise. C'est l'adoration des rois mages avec la Vierge, l'enfant Jésus sur ses genoux. Les rois mages sont ici, Saint Joseph est là. Et cette représentation à l'extérieur est aussi intéressante, en particulier à Embrun, puisque à Embrun on avait la même représentation, mais qui a été détruite au moment des incursions des guerres de religion. Donc Lesdiguières avait détruit une partie d'Embrun, et en l'occurrence cette partie de la cathédrale. On connaît la représentation par des coins, c'est-à-dire vous avez peut-être vu, hein, à l'exposition, je vais vous montrer la photo qui suit, voilà, ce sont des matrices de sceaux, si vous voulez, mais qui servaient à frapper des médailles ou des images pour les pèlerins qui passaient. Et l'image représentée sous forme de mosaïque à l'intérieur de la cathédrale d'Embrun, et qui reprend donc la représentation qui se trouvait sur le tympan, était en fait une image miraculeuse, puisqu'au XIVe siècle et XVe siècle, Embrun drainait une foule nombreuse de pèlerins et des processions importantes, avec des fidèles qui demandaient la guérison de certaines maladies et qui venaient de différents lieux, évidemment des Hautes-Alpes, mais aussi de tous les départements limitrophes. On va donc quitter l'extérieur des églises pour rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur de toutes ces églises, que ce soit d'ailleurs église ou chapelle, on a bien évidemment les cycles qui racontent la vie des saints. Ici, nous sommes à Seilhac, dans l'église paroissiale de Seilhac. L'église est dédiée à Saint Sébastien et bien entendu, on a une représentation de l'histoire de la vie de Saint Sébastien. Ici, j'ai choisi cet exemple parce que c'est une peinture de bonne qualité. Comme vous le voyez, les rinceaux qui divisent chaque scène ont été travaillés avec une frise décorative. On a une mise en perspective avec les escaliers. Ici, donc, on a la représentation des idoles païennes et on a Saint Sébastien qui est ici et qui exhorte l'empereur Dioclétien à renoncer à la vénération pour les idoles païennes. Ce sera suivi par d'autres épisodes de sa vie, évidemment par son martyre. Cet ensemble est assez fragmentaire, mais il est très intéressant puisqu'il vient en quelque sorte d'être dégagé il y a très peu de temps. Il s'agit justement de l'église des Cordeliers. Je vous en ai dit deux mots tout à l'heure en vous disant qu'au XVe siècle, le couvent avait été construit à l'intérieur de la ville. Il a donc été doté de peintures murales, quelques-unes qu'on va voir tout à l'heure qui sont vraiment de très grande qualité, celles-ci aussi, mais malheureusement, le dégagement qui a permis de retrouver cette histoire de la vie de Saint-Antoine montre que les dépradations ont été très importantes, puisque le couvent avait été transformé, notamment au moment de la Révolution, en un lieu où étaient stockées les munitions, enfin, un lieu militaire. Donc, cette représentation de Saint-Antoine, il y a eu une publication récemment, ainsi pour ceux que ça intéresse, par le service du patrimoine. Cette représentation de Saint-Antoine est très intéressante puisque chaque image, en fait, on est un peu en face d'une sorte de bande dessinée, hein, chaque image reprend presque point par point. Le mystère de Saint-Antoine, qui était donc un théâtre, enfin une mise en scène théâtrale qui était jouée devant les églises au Moyen-Âge. C'était une façon là aussi d'enseigner aux gens qui ne savaient pas lire, d'enseigner l'histoire du saint. Et cette représentation, donc, je vous disais, reprend la rédaction vraiment du mystère de Saint-Antoine qui vient de Névache. Ici, on est donc à Briançon. Enfin, là, on revient à la chapelle Saint-Martin-de-Querrières, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la chapelle Saint-Jacques, et on a une succession de petites scènes qui racontent le miracle du pendu. Donc, les peintures ont été faites également à la fin du XVe siècle. Elles sont chacune partagées, enfin divisées, pardon, par ce bandeau que vous voyez ici qui divise chaque scène en une petite image, elle-même, la plupart du temps, coupée en deux par l'architecture qui permet de montrer deux moments simultanés. Et au niveau de la réalisation et de la mise en scène, il y a vraiment une recherche. Et là, on est donc le miracle du pendu. Je vous le rappelle en quelques mots. Ce sont donc des parents qu'on voit figurer ici, qui voyagent avec leur fils et qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui s'arrête dans une auberge pour déjeuner, enfin pour dîner plutôt. On les voit donc ici avec du pain. Là, on pense que ce sont deux pots de vin. Ce qui est très intéressant au niveau figuratif, c'est qu'ici, on a la représentation d'une salière et que la forme rappelle un peu certaines pixides. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Et donc, le père et la mère sont ici. Pendant ce temps, le fils subit, qui est allé chercher du vin, on a le tonneau ici avec la servante, subit les avances de la servante. Il renonce à céder aux avances de la servante, donc pour se venger le lendemain matin, elle met dans son bagage de l'orfèvrerie, faisant croire qu'il l'a volé. Il se trouve qu'il est arrêté, il est donc, à cette époque-là, les jugements étaient très rapides, il est donc aussitôt pendu. enfin, bien qu'il se défende d'avoir commis ce vol et malgré les prières de ses parents. Donc, il est pendu, les parents continuent leur chemin et quand ils reviennent, ils s'attendent à trouver leur fils mort et s'apprêtent à ses funérailles. Et en fait, leur fils n'est pas mort puisque Saint Jacques a retenu sur son dos le fils pour qu'il reste en vie. Et au moment où il s'adresse en disant mais mon fils est mort, il s'adresse à l'aubergiste qui leur répond non, votre fils est vivant, votre fils est mort comme ces volailles qui sont sur la table, et en fait les volailles reprennent vie également. Donc c'est pour ça qu'à Saint-Jacques de Compostelle, il y a un endroit où des volailles sont présentées. Donc toute cette scène qui est vraiment racontée et qui est très facile à comprendre était vraiment une façon de mettre en scène et de présenter à des gens qui ne savaient pas lire, qui ne pouvaient pas lire cette histoire, de la comprendre et de la connaître. Enfin, on trouve à l'intérieur des églises et sur les deux côtés de la nef, comme là on est à Puy-Saint-Vincent, la chapelle Saint-Vincent, une succession, c'est un petit peu une sorte de litanie des saints ou du petit peuple des saints. On a une succession de saints qui sont représentés les uns à la suite des autres, avec simplement quelque chose qui les différencie, donc soit leur attribut, soit une représentation de leur martyr. Et là, vous avez sans doute reconnu Saint-Étienne qui a été lapidé avec les bourreaux qui vont lui lancer des pierres et la représentation de Saint-Étienne avec les pierres sur la tête. À la suite de cette représentation, on trouve Sainte-Catherine qui a subi le martyre de la roue. Donc on a sa représentation ici. Et puis ici, Sainte-Lucie qui a eu les yeux crevés et qui est donc une protectrice de toutes les maladies liées aux yeux et qui est représentée ici avec son plateau tenant ses yeux. Ces deux saintes, comme d'autres, font partie des intercesseurs qui étaient les plus souvent priés par les fidèles à cette période. À côté, vous reconnaissez bien évidemment la Vierge à l'enfant sur un trône gothique avec une représentation qui est très intéressante puisque les représentations de la Vierge à l'enfant sur trône disparaissent à peu près à cette période. Enfin, et c'est là où je vous disais qu'on allait quitter 2 minutes les Hautes-Alpes, puisqu'ici, c'est la chapelle d'Oron, à Saint-Étienne de Tinée, où on trouve une représentation de Saint-Érige ou Saint-Arrêt. C'est la raison pour laquelle je voulais vous le montrer, puisque Saint-Arrêt, vous le savez, a été un des évêques de Gap à la fin du VIe siècle. Voilà une représentation de la. Donc c'est une chapelle en fait, c'est pas une église, hein, c'est une chapelle. Vous voyez qu'il y a deux absides et l'une des deux absides est dédiée à Saint-Arrêt. Donc voilà la représentation. Donc là on en parle, je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure, hein, sur cette organisation de la voûte, mais c'est surtout sur cette partie basse qu'on a la représentation de certains épisodes de la vie de Saint-Arrêt. Avec simplement en fait hein, 4 épisodes, mais la réalisation des peintures est de très grande qualité. Là, on n'a pas de nom sur le peintre, mais par contre, l'ensemble est daté et il est daté de 1451. On a la représentation ici de Saint-Arrêt et Saint-Érige qui est en train de soigner les lépreux, puisque c'est ce qu'on appelle la charité de Saint-Arrêt. Une épidémie de lèpre sévissait à cette époque-là. Et donc, Saint-Arrêt s'était proposé pour soigner et accueillir chez lui les lépreux. Donc, ici, il est en train de les soigner. Et enfin, là, enfin, je vous montre simplement 2 images. Il s'agit de sa mort, puisque là, il est représenté ici. Vous voyez que le cercueil est sur un chariot traîné par un bœuf et un ours. Donc là aussi, c'est une allusion à l'histoire de Saint-Arrêt, puisque quand il était allé voir le pape à Rome, en revenant et en traversant les Alpes, il s'est fait attaquer par un ours. L'ours a dévoré un des bœufs qui tirait son véhicule. Donc il a calmé l'ours et il lui a demandé de remplacer le bœuf et de tirer le chariot. Donc c'est ce qu'a fait l'ours. Et l'ours après donc serait allé se cacher dans les montagnes d'Orcières, d'où le nom d'Orcières. Il serait resté caché dans les montagnes d'Orcières en attendant que Saint-Arrêt soit mort. Et le jour de sa mort, il est revenu et c'est lui qui a tiré le cercueil sur le chariot. Donc voilà la représentation ici. Donc vous voyez que c'est très soigné au niveau de la représentation et au niveau du dessin. Et au niveau des couleurs aussi, là, la photo, hein, c'est un tirage d'après une diapositive, donc elle est un peu. Enfin, les couleurs ne sont pas de très très. Enfin, pas très bon, un très bon rendu. Mais ici, on a une peinture bleue. Et le bleu était un pigment qui était très peu employé, puisqu'il était très cher. Donc on le trouve ici puisqu'on est face à un cycle peint, certainement une œuvre importante faite par un peintre de renom à l'époque. On va quitter l'histoire des saints pour aborder le cycle de la Passion qu'on trouve en particulier sur cette église qui est l'église de Pampinet à Névache, avec la voûte au devant de l'entrée du chœur qui présente sous forme de vignette le cycle de la Passion. C'est un cycle peint qui est un peu plus tardif et qui date du début du XVIe siècle. Voilà un extrait hein, de cette voûte sur le côté nord. Donc, bon, je vous passe pas tous les épisodes. Le Christ va être présenté devant Anne, devant Caïphe, devant Pilate, devant Hérode. Ensuite, on a évidemment la dérision du Christ, la flagellation, le couronnement d'épines. Pilate, comme vous le voyez ici, c'est l'épisode où Pilate dit qu'il se lave les mains. Voilà la représentation ici. Là, on a la représentation de Judas et des 30 deniers. Et là, la représentation de Judas qui s'est pendu. Donc, c'est intéressant. Enfin, j'avais insisté un peu sur la représentation de Judas, puisque bien que aucune, comment dire, aucun, enfin, la représentation d'une personne comme Judas s'est forgée d'elle-même au fur et à mesure des siècles. Et au XIe siècle, on arrive à une représentation qui est très reconnaissable pour tous les gens qui vont regarder ses œuvres. Judas est habillé en jaune, il est généralement gaucher, ce qui était à l'époque quelque chose qui montrait un peu une fourberie. Vous voyez qu'ici, il met la main à sa bourse de la main gauche, et il est nimbé, mais il est nimbé de noir. Voilà un détail, avec le diable, bien entendu, qui attrape son âme. Et l'âme qui s'échappe de son corps, avec ici une représentation un petit peu des viscères. Voilà un détail sur certains visages qui sont représentés de façon assez schématique. Et un petit peu répétitive, hein. Il y a un type de personne, de visage qui est répété. En revanche, on a des détails, vous voyez, sur la représentation des chevelures, de la barbe, des moustaches, ici des dents. Dans le fond, on a donc une mise en scène devant des éléments d'architecture avec de la perspective, comme vous pouvez l'observer, sur la fenêtre. On retourne à Saint-Martin-de-Carrière et à la chapelle Saint-Jacques-de-Presles pour vous montrer quelque chose qui est beaucoup plus populaire et avec une force expressive extraordinaire. Vous voyez, vous reconnaissez bien entendu la scène de la flagellation avec le Christ qui est représenté ici et les bourreaux tenant leur fouet dans les dents comme celui-là, avec un type très, très grossier. pas un détail. Très impressionnant. Et là, on est sur une représentation qui est un peu plus populaire, comme je vous l'ai dit, avec ce qu'on appelle un fond écran. Donc là, ça a viré au bleu, mais ce n'était certainement pas du bleu. Sans autre représentation que la scène elle-même, qui devait frapper l'imagination, bien entendu, et marquer les fidèles. Enfin, on trouve en plusieurs lieux la représentation de ce qu'on appelle la Pietà, donc la Vierge qui tient le Christ mort sur ses genoux, Marie-Madeleine qui se trouve ici, et puis de l'autre côté Saint-Jean qui, dans un geste de compassion, enlève la couronne d'épines. Cette peinture est dans l'église de Névaches. Elle est tout à fait inspirée, et c'est là où on comprend que les modèles circulaient et que ces peintres, qui étaient des peintres itinérants, voyageaient avec des croquis, avec des carnets et avec des modèles. Et donc, comme vous le voyez, elle est très inspirée de cette œuvre peinte que vous connaissez sans doute, et qui est la Pietà, peinte par Enguerrand Carton, pour la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, actuellement présentée au Louvre. Vous voyez qu'on retrouve la représentation du Christ avec le bras qui est perpendiculaire aux jambes, Marie-Madeleine évidemment aux pieds qui pleure, et Saint-Jean qui s'apprête à enlever la couronne d'épines. Ici, on a la présence d'un donateur que, évidemment, on n'a pas sur cette représentation-là. Mais ce sont des modèles qui circulent et qu'on retrouve même dans des réalisations de petites chapelles et de lieux qui n'étaient pas très en vogue, entre guillemets. Ce modèle se retrouve également dans la réalisation des sculptures, puisque là on est à Puy-Chalvin, donc à Puy-Saint-Pierre. On a sur l'autel un retable du début du XVIe siècle, fin 15e, la même période, avec une représentation au centre de la Vierge qui tient le Christ avec les mêmes caractéristiques, Saint-Jean qui s'apprête à enlever la couronne et Marie-Madeleine qui tient le vase à parfum à ses pieds. La Vierge, comme vous le voyez, n'est pas en couleur, simplement parce que c'est une statue qui a été volée dans les années 80. Quand elle a été retrouvée, elle avait été entièrement décapée par les voleurs qui voulaient éviter qu'elle soit reconnue. Voilà un détail sur Marie-Madeleine. Je peux revenir un peu là, voilà. Peut-être un peu grossir pour s'approcher un peu. Voilà. La polychromie n'est pas entièrement d'origine. Elle a été repeinte, particulièrement le rouge, le vert, là. Il faut que je revienne là, je pense. Voilà. Voilà, et puis donc maintenant on va parler de ce qu'il y a généralement dans le cœur. Je vais pas trop me dire. Alors, c'est une organisation qui est très stéréotypée. C'est-à-dire que dans le cœur, on trouve bien évidemment ce qu'on appelle la transmission de la parole. C'est-à-dire qu'on a une représentation dans la mandorle de Dieu le Père, qui est représenté ici, qui transmet la parole aux évangélistes, donc soit la représentation des évangélistes, soit leur symbole, et qui eux-mêmes transmettent la parole aux apôtres, qu'on va trouver ici représentés sous des arcatures. Cet exemple est à Saint-Martin de Kerrières, dans la chapelle de Presles, dont je vous ai déjà parlé. On va le retrouver dans une petite chapelle à Saint-Hippolyte-du-Bouchier, dans la même commune. On va le retrouver au Vigneault, un peu différemment puisque le chevet est plat, donc c'est de chaque côté. Enfin, on le retrouve en plusieurs lieux. Et ce modèle, enfin, comme vous pouvez peut-être le voir si vous connaissez les mosaïques de Ravenne, par exemple, c'est hérité évidemment des mosaïques de Ravenne et de la période byzantine. J'ai l'impression que ça. Ah, voilà. Donc, cette représentation est très, enfin, revêt un savoir-faire très très affirmé et avec une représentation presque grandiose dans la chapelle des Cordeliers de Briançon, avec une chapelle qui est dédiée à cette représentation. Vous voyez ici les quatre évangélistes. Alors, on n'a pas tout à fait le même modèle. Au centre, on a un IHS rayonnant et on a la représentation des quatre évangélistes qui, comme je vais vous le montrer, sont chacun installés sur une chaire avec des jouets et en train d'écrire le début de leur évangile. Alors. Pour commencer, on a Saint Jean, vous le voyez avec son symbole qui est l'aigle, qui est représenté ici. Il est en train d'écrire. Derrière lui, derrière l'aigle, on a la représentation de tout le matériel dont il avait besoin, installé sur un petit meuble en bois. Et la réalisation de ces peintures est très très soignée. On a évidemment ici l'emploi du bleu, l'emploi de couleurs très chatoyantes et un détail très précis sur chaque ustensile. Voilà Saint-Jean. Je vous laisse le temps d'admirer. Enfin, j'espère que mes photos sortent bien. Donc on a une plume, l'encrier, on a derrière l'aigle donc la crédence qui contient le matériel nécessaire avec une boîte à sable. Donc c'est cette petite boîte-là qui permettait de sécher l'encre une fois qu'elle était écrite. Des styles, on en a plusieurs. Des chandeliers, là, ici. On a un canif, ou rasoir. On a un instrument ici qui est très intéressant, qui permettait de marquer les lignes sur les parchemins pour pouvoir écrire droit. On a également une règle, des livres, un linge. Et sur le texte latin qui est ici, on a le début du prologue de l'évangile de Saint Jean. Voilà un détail. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a vraiment une mise en perspective qui est assez juste, avec des ombres portées qui permettent vraiment de donner du relief à chaque objet et à la scène. Voilà les livres. Et puis ça, quelque chose d'assez vivant, puisque le tiroir est un petit peu ouvert. Enfin, on a l'impression d'une volonté. De montrer la scène dans une sorte de quotidien, comme si c'était pris sur le vif. Sachant que c'est quand même sur une voûte, donc visible parce que la voûte n'est pas très haute, mais c'est un soin particulier à des scènes qui ne sont pas forcément vues de très près. Alors là, on a, vous l'avez reconnu, sa marque avec le lion. Voilà un détail sur le lion, sur le phylactère. Donc le lion tient l'enroulé du texte qu'il est en train d'écrire. Ensuite, on a une représentation de Saint Matthieu avec l'ange. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il est en train de tailler une plume. Donc il est vraiment, comme je vous le disais, pris sur le vif du moment. Ici, on a une roue à livres avec des livres posés de chaque côté et puis des livres fermés dans la partie inférieure. Voilà une représentation de l'ange qui est en train de relire ce que Saint Matthieu a déjà écrit et comme s'il vérifiait les jouets du trône sont décorés, comme vous le voyez ici, par des représentations des prophètes. Et le travail a été fait de façon très soignée en perspective et en grisaille. Voilà un détail. Voilà, je vous montre plusieurs détails. Alors, donc là, il y a un linge blanc, il y a une plume avec l'ombre portée comme on a vu tout à l'heure. Un livre qui est en train, on dirait les pages sont en train de s'envoler. Voilà la roue à livres. Et un détail sur les mains qui sont en train de tailler la plume. Enfin, on a Saint-Luc qui lui est en train de réaliser une enluminure. Et c'est très intéressant au niveau documentaire puisqu'on a vraiment tout l'attirail du moine qui enlumineur. Alors il tient dans sa main un petit godet avec les pigments. Il est en train de poser les pigments. Et sur sa table, on a ici une feuille d'or. On a les ustensiles qui lui permettaient de la tenir, de la poser. On a ses lunettes, des besicles. Là, c'est de l'encre avec attaché un petit contenu où se trouvaient les plumes du scribe. Et puis la boîte avec, dans ce casier-là, des petits godets avec toutes les couleurs. Et vous voyez le détail sur cette serrure avec la clé, la mise en perspective, les petits rivets qui maintiennent l'ensemble. Je ne sais pas s'il y en a une qui a sauté. Non, voilà, c'est bon. Voilà le pinceau avec son ombre portée qui suit bien évidemment le plateau du bureau. Et puis la main qui est en train de réaliser l'enluminure. Donc il faut bien se rendre compte que c'est comme je vous le disais assez haut et que de toute façon d'en bas on ne se rend pas compte de tous ces détails. Mais les détails y sont et le soin a vraiment été porté. Enfin, sur cette, dans cette chapelle, sur le mur plat du chevet, on a une représentation de part et d'autre de la baie de Adam et Ève. Voilà la représentation d'Adam, donc sur un fond uni, un visage qui est très très soigné et très expressif, avec une certaine paix. Voilà. Les proportions sont un petit peu maladroites. Pardon, je vais à l'envers. Et voilà, Ève qui tient la pomme. Et voilà un détail sur son visage. Avec la représentation ici, hein, évidemment, elle est nue. Vous devinez ici sa poitrine. Alors, pour terminer ma présentation, je voulais vous dire que, évidemment, toutes ces peintures murales ont été la plupart du temps badigeonnées, voire détruites, puisque quand elles étaient badigeonnées, puisqu'elles n'étaient soit parce qu'elles n'étaient plus au goût du jour, bien souvent les églises se sont dotées au XVIIe siècle de retables en bois doré, de peintures qui étaient plus parlantes, elles étaient donc moins au goût du jour et elles ne parlaient plus tellement aux gens. Elles ont donc été la plupart du temps badigeonnées. Très souvent, pour faire tenir le badigeon qu'on allait faire adhérer, on les a un petit peu martelés. Si vous allez à Embrun, dans la chapelle des Cordeliers, qui est visible si vous allez à l'office de tourisme, vous verrez, malgré la restauration, qu'on a une espèce d'effet de neige qui est dû justement à cette dépradation. Et donc ces peintures murales sont encore, quelques-unes se trouvent certainement encore sous le badigeon de certaines églises. Et de chaque année, on fait une découverte. Là, il y a eu une découverte à Arvieux. Il s'agit de décors peints du XVIIe siècle, mais enfin, le Badigeon du XIXe l'avait masqué et ça a été retrouvé dans le courant de cette année. Et je vais vous montrer très rapidement un décor qui vient d'être trouvé dans une petite église qui se trouve dans les Alpes-de-Haute-Provence, sur la commune de Fouillouse, la petite chapelle de Fouillouse, avec un décor très particulier. Et un décor qui était complètement caché sous du badigeon et qui vient d'être découvert et qui n'est pas fini, qu'on n'a pas fini encore de dégager. Et probablement, la chapelle va livrer un jour un décor peint très très intéressant. Donc, on a cette représentation, vous voyez, on est là sur un mur qui a été dégagé, on le devine ici, avec des témoins de part et d'autre qui montrent que la peinture se poursuit sur la totalité du mur. Et on a une représentation de la Vierge qui protège les fidèles, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et on a ce qui est intéressant pour l'histoire de Fouillouse, on a la représentation à la fois de paysans, de gens plus fortunés, de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle la Vierge de Miséricorde, hein, qui ouvre son manteau et qui accueille et protège les fidèles. Alors voilà un des. Oh, ça va trop vite. Pardon. Un détail sur le visage de la Vierge. C'est une réalisation qui est un peu plus tardive que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est-à-dire que ça date probablement des années 1540, puisque la chapelle a été reconstruite dans la premier quart du XVIe siècle. Le style est un peu différent. On a un style qui est un peu plus, entre guillemets, bande dessinée, dans le sens où c'est très dessiné, justement, avec des pigments qui sont posés après. Donc on a une espèce de dessin coloré, en fait. Donc voilà la Vierge. Voilà un des personnes, enfin, un des pers une des personnes qui se trouve dans la foule du côté des hommes, qui regarde le visiteur et qui peut faire penser au donateur, celui qui a peut-être payé, qui a voulu se faire représenter bien, bien en vue quand même, dans la foule. Et puis du côté des femmes, on a ici une femme qui est très bien coiffée. Là, au contraire, une femme qui peut être une paysanne. Et voilà, j'ai fait le tour.